Nous poursuivons la lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple. Il s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait. Et il les envoya à Bethléem en disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vint s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Le voyage des mages partant d'un lointain pays pour arriver jusqu'à Bethléem est le début d'une lente révolution. Mais qui sont-ils ces mages? Les mages, ce sont des savants doués ici en astrologie. Et celui qui écrit cet évangile, Matthieu, il ne dit rien sur eux. Il ne dit pas qu'ils sont rois, il ne dit pas non plus qu'ils s'appellent Gaspard, Melchior et Balthazar, il ne dit pas non plus qu'ils sont enterrés à Cologne, en Allemagne, selon la tradition. Il ne dit pas qu'ils sont de couleurs différentes. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils sont trois à cause des présents qu'ils ont donnés à l'enfant, l'or, la myrrhe et l'encens. Alors Matthieu écrit son évangile à des chrétiens en grande majorité d'origine juive. Et certains d'entre eux sont méfiants de voir arriver dans leur communauté des chrétiens non-juifs. Et par ce récit, Matthieu leur explique que dès le début, ces mages venus d'Orient reconnaissent Jésus comme roi et se prosternent devant lui, contrairement à ceux qui habitent Jérusalem et qui sont dans un pouvoir établi. Mais écrire tout cela à une communauté d'origine juive, c'est-à-dire à ceux qui ont le sentiment d'être le peuple choisi par Dieu, c'est quand même risqué. Parce qu'avec le récit des mages, l'évangéliste Matthieu vient dire aux membres de son peuple deux choses. La première, c'est que en l'enfant de Bethléem, Dieu se donne au monde. Pas simplement au monde juif, mais au monde tout entier. Pas seulement au monde des croyants ou des bien-pensants, mais au monde des athées et des superstitieux. Alors ce n'est pas rien de dire cela, puisque par la suite nous apprendrons que Jésus a été rejeté par les siens, qu'il a été condamné et mis en croix par les chefs des prêtres et les pharisiens, et que c'est un centurion romain, c'est-à-dire un homme païen, autrement dit un non-juif, qui reconnaîtra en lui le Fils de Dieu. Un autre évangéliste, Jean, dira dans le début de son évangile, « La lumière est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. » La seconde chose que l'évangéliste Matthieu est en train de dire, en racontant cet épisode des mages ou des savants, c'est que Dieu n'est plus la propriété exclusive des croyants juifs. Et cela non plus n'est pas rien de le dire, justement à un peuple dont la foi est régie par la loi de Moïse et des nombreux commandements qui viennent édifier la façon dont il faut croire et surtout qui viennent indiquer le contenu de la foi. Le Dieu de Moïse s'est révélé jusqu'à présent dans la loi donnée au mont Sinaï, dans le décalogue et tous les commandements qui en découlent. Mais dans l'évangile de Matthieu, Dieu se révèle dans cet enfant encore anonyme de l'étable de Bethléem, autrement dit là où personne ne l'attend. Cette façon de transmettre les choses est le début d'une lente révolution qui est commencée et qui n'est pas finie. Avec les prophètes du Premier Testament, comme Ésaïe ou Michée, il y a eu ces paroles prophétiques et libératrices, annonçant une lumière qui va guider tous les peuples, ou encore l'annonce d'une naissance d'un enfant à Bethléem, un enfant avec tant de dons qu'il finirait par conduire tout le peuple. Nous l'avons entendu dans la lecture. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui conduira Israël, mon peuple. » Mais rien n'indiquait que l'enfant naîtrait dans une étable. Alors les prêtres et les scribes du monde juif connaissent par cœur le contenu du livre de la loi et des prophètes, et ils savent interpréter correctement le contenu de la parole de Dieu, et ils ne tirent aucune conséquence de l'arrivée des savants devant eux. Ils apprennent par eux que la prophétie ancestrale est en train de se réaliser, mais ils les laissent partir à Bethléem sans y aller eux-mêmes. Ils n'éprouvent pas le besoin de vérifier correctement ce qu'ils ont appris et ce qu'ils croient savoir. Curieusement, ceux qui savent et qui croient correctement manquent le premier rendez-vous de la nouvelle façon que Dieu prend pour se révéler au monde. Alors, c'est bel et bien le début de cette lente révolution qui n'est pas encore finie. D'une certaine façon, Dieu change d'identité. Selon notre imaginaire, Dieu quitte les cieux, lieu de son éloignement, et s'incarne, comme nous le disons, présent dans un enfant, celui de Bethléem. Dieu est là tout entier dans la fragilité d'un enfant. C'est cela le début d'une vraie révolution qui démarre à Noël et qui continuera plus tard avec Jésus devenu adulte, parcourant la Galilée et la Judée, en soignant, en faisant des signes, et qui obligera les autres à se poser des questions, comme celle-ci. Est-ce que tu es bien le Messie annoncé par les prophètes, ou alors devons-nous en attendre un autre ? Frères et sœurs, quelle est cette lente révolution qui démarre ? C'est celle où Dieu nous rejoint dans notre marche vers des terres inconnues comme les mages au temps de la naissance de Jésus. Nous qui croyons à sa toute-puissance, eh bien, sa seule toute-puissance sera celle de l'amour désarmé, en un seul mot, qui, paradoxalement, sera celle de la vulnérabilité extrême, à la fois présente dans la fragilité d'une naissance et présente aussi plus tard dans l'impuissance d'un homme mourant sur une croix. Alors je crois vraiment que nous n'avons pas trop d'une fête de Noël tous les ans pour découvrir, redécouvrir inlassablement et de façon toujours inattendue le Dieu de Jésus-Christ. Noël est là non seulement pour nous rassembler, nous apaiser et nous remplir de joie malgré ce monde brutal qui est le nôtre, mais Noël est là aussi pour nous inviter à accueillir la présence du Dieu de l'Évangile, qui est tout autre, jamais comme on l'imagine, et qui aujourd'hui est symbolisé par un enfant nouveau-né, entouré de sa mère, nous dit l'évangéliste Matthieu, mais on sait aussi qu'il y avait Joseph derrière. Ce Dieu dont Jésus sera, à mon sens, le témoin incomparable, qui se tiendra le moment venu auprès des rejetés, des parias, des prostituées. Il relèvera les femmes adultères, il guérira les lépreux, il fera la première place aux enfants, il rémunérera le dernier autant que le premier. Et au moment ultime, il dira encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh bien voilà, c'est tout cela, ce Dieu présent en Jésus-Christ, que nous fêtons à Noël. Cet amour présent jusque dans les situations les plus insoutenables de notre monde. Et c'est cet amour-là qui est l'étoile des hommes. Pour la suivre, cette étoile, pour comprendre et recevoir cet amour promis à tous, y compris nous-mêmes, il va nous falloir, tout comme les mages de notre récit, rentrer par un autre chemin pour le reconnaître dans des endroits les plus improbables, là en particulier où des êtres humains luttent inlassablement pour la dignité de leurs frères en humanité, travaillant sans relâche au dialogue, à la réconciliation, à la paix et à la solidarité sous toutes ses formes. Oui, c'est une lente révolution qui a débuté il y a longtemps, mais qui continue encore aujourd'hui avec nous. Joyeux Noël à tous et à toutes.